Bonsoir. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour enterrer les derniers soupçons d'hostilité à l'encontre de Jaylen Brown. Jaylen, après plusieurs années de nuits blanches à épier chacune de tes actions négatives pour rédiger des tweets tous plus salés les uns que les autres, tu as su faire taire le hater qui était en moi. Cette année, et malgré quelques matchs frustrants durant les premières semaines, tu as su évoluer et amener, comme le dit l'expression, ton jeu vers un autre niveau. Fini les pertes de balles incessantes, les tirs rapides ou sans rythme, les aides défensives approximatives ou inexistantes. Cette année, Jaylen, tu es presque devenu le joueur parfait, un leader par l'exemple, capable tantôt d'inscrire une trentaine de points avec facilité, tantôt de défendre avec férocité sur le meilleur attaquant adverse. Si le hater qui était en moi a pu dire l'an passé que tu n'étais pas un top 30 NBA, il m'est impossible de dire que tu n'es pas l'un des tout meilleurs joueurs de la Ligue cette année. À vrai dire, ton duo avec Jason Tatum est presque aussi destructeur que tes pertes de balles d'autrefois dans un Game 7. Aujourd'hui, Jaylen, je veux te demander pardon. Pardon d'avoir douté de ton talent et de ta capacité à briser ce plafond de verre qui te tenait éloigné de la table des tout meilleurs. Désormais, un seul obstacle me sépare encore d'une adhésion totale à ton fan club. Car Jaylen, plus que jamais, de tes performances en playoff, dépend la levée d'une 18e bannière. Et si toi et tes camarades réalisez cet exploit, cette fois, je te le jure, mes tweets nocturnes ne seront plus que des déclarations d'amour.
Vous écoutez le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Trèfle. Johan pour vous accompagner dans ce nouvel épisode et non, vous ne rêvez pas, vous venez d'entendre Hugo dire du bien de Jaylen Brown et je peux vous dire qu'ici au Trèfle, on vivait ça comme un véritable événement. Si vous êtes des auditeurs réguliers du Trèfle, vous le savez, on n'a pas toujours été tendre avec JB et s'il y en a bien un dans l'équipe qui allait peut-être un peu plus loin que les autres dans l'exigence, c'était bien Hugo. Ça fait un petit moment qu'il nous dit qu'il veut intervenir sur Jaylen. On a hésité à faire un mini focus pour pouvoir en parler. Et puis quand le moment de faire le bilan individuel est venu, ça a naturellement trouvé sa place. Bon, pour marquer le coup quand même, on a modifié un petit peu la structure de ce début d'épisode. Mais quel plaisir de t'avoir entendu en ces termes, Hugo. Comment ça va?
Bah écoute, ça va, hein. Jaylen Brown nous apporte du bonheur, hein. Un peu plus qu'en tout cas, si je peux me permettre, un peu plus que voilà, en tant qu'enseignant, futur enseignant, la nomination d'Amini Oudéa-Castéra qui, pour le coup, me rappelle finalement les heures sombres du hater que j'étais.
Eh ben voilà, il y aura donc un petit point négatif, mais c'est vrai que Jaylen nous apporte du bonheur en ce moment. On va se concentrer là-dessus. Avec nous pour l'enregistrement de cet épisode, il y a aussi Titouan. Comment ça va, Titouan?
Bah ça va très bien. Bon, j'ai la chance, je pense qu'on peut dire, de pas faire partie de l'éducation nationale et de pas avoir les soucis que vous avez. Mais au final, je les ai un peu par ça déteint un peu sur moi, étant donné que j'ai l'impression d'être entouré d'enseignants ou de futurs enseignants. Mais non, ça va très bien. Les Celtics sont toujours la meilleure équipe de la ligue. Et comme a dit Hugo, Jaylen Brown nous montre le bon visage du Jaylen Brown qu'on aime bien. Donc tout va bien.
Ok, bah écoute, je vais revenir vers toi dans un instant justement pour que tu puisses développer un petit peu et nous parler toi aussi de Jaylen Brown. Mais avant ça, petite présentation quand même. Cet épisode sera donc la deuxième partie d'un double épisode consacré, je le disais, au bilan individuel de nos joueurs. Donc si vous tombez sur cet épisode alors que vous ne nous avez pas écouté depuis un petit moment, bon, a priori, il n'y a pas d'obligation d'aller écouter l'autre en premier, hein, je pense pas, puisque on traite les joueurs de manière individuelle. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas que l'autre partie est d'ores et déjà disponible. Et puis bon, si vous êtes du genre à vouloir faire les choses absolument dans l'ordre, eh ben, vous mettez sur pause, vous allez écouter la première partie et puis vous reviendrez vers nous un petit peu plus tard. Dans cette autre partie, Elias était accompagné de Vincent et de Azad. Ils ont parlé de Derek White, de Lamar Stevens, de Luke Kornet, de Peyton Pritchard, de Jason Tatum, de Svi Mihailiuk et de Al Horford. Et nous, donc, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de vous parler des autres membres de l'équipe. Juste un dernier petit point, donc depuis cet épisode, on s'est fait laver par les Bucks. Bon, pas sûr qu'il faille accorder énormément de poids à cette défaite. Alors ça a l'air pratique, hein, dit comme ça. S'il y a des fans des Bucks qui nous écoutent, ils doivent se dire, bah, eux, ils s'embêtent pas, ils se prennent une grosse défaite, ils disent que ça compte pas. Alors bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Mais on en parlait justement avec Hugo en off, qui nous disait qu'il savait pas si c'était une si bonne idée. Il semblerait qu'il ait été choisi de prioriser la série de victoires au TD Garden. Parce que bon, le record est beau, mais c'est vrai que si on avait donné la priorité au match contre les Bucks et qu'on l'avait gagné, hein, parce qu'encore fallait-il le gagner, une victoire nous aurait quand même donné 5 matchs d'avance sur eux. Le plus dur aurait peut-être été fait dans la course au first seed de l'Est. Mais bon, il en a été décidé autrement. Gros back-to-back, hein, derrière les Wolves. On a su rebondir contre les Rockets. Et puis, on a eu un match, voilà, pour reprendre ce que nous disait Vincent dans notre petite conversation privée, pas fifou, hein, contre les Raptors. Voilà, qu'on a gagné quand même, c'est toujours bon à prendre contre les Raptors, mais c'était pas top top. Nous voilà donc avec un bilan de 31-9. On enregistre quelques heures avant le début du match contre les Spurs. Et donc, si vous écoutez cet épisode rapidement après sa parution, vous serez donc pile poil à la mi-saison avec 41 matchs joués. Voilà pour ce qu'il y avait à dire avant de démarrer. Titouan, je te donne la parole sur Jaylen Brown.
Bah, écoute, déjà, je voudrais te féliciter pour la prononciation de Svi, dont moi je ne dis que le prénom parce que je ne veux pas m'essayer à prononcer son nom de famille.
Alors Hugo m'a coaché quand même. Il me l'a fait répéter deux ou trois fois la première fois que j'ai parlé de lui.
mais du coup sur Jaylen Brown, j'ai pas beaucoup plus à dire que ce qu'a dit Hugo. C'est vrai qu'on note des progrès dans les efforts défensifs. En fait, dans tout ce qu'on lui a reproché, je note quand même pas mal de progrès, donc dans les efforts défensifs, on l'a dit, et surtout, moi ce qui m'a marqué le plus, parce que je pense que c'est ce qui nous dérangeait le plus, c'était l'acceptation de son rôle, on va dire, notamment être plus efficace dans le jeu sans ballon, essayer de faire moins de pull-up, un peu comme l'a dit Hugo, hors rythme, de prendre des tirs. Alors il en a toujours et il en aura tout le temps déjà parce que c'est un peu dans son jeu et que en tant que deuxième star de l'équipe, il a forcément ses tickets shoot un peu, ses petits bonbons qu'il aura tout le temps. Mais j'ai noté une stat qui est sur les jeux de type cut. Sur des cuts où il est passé du 35e percentile sur l'efficacité au cut la saison dernière au 76e cette année. Alors sur une fréquence assez moyenne où on aimerait qu'il en fasse beaucoup plus. Mais après, on sait aussi que c'est pas souvent c'est des types de jeux qui sont plutôt dédiés à des role players, on va dire. C'est surtout les role players qui en font beaucoup des cuts. Mais je trouve que au-delà de la fréquence, je trouve que c'est assez notable de voir qu'il est devenu de plus en plus efficace sur la finition près du cercle, chose qui lui avait fait pas mal défaut les saisons précédentes. Donc ça, c'était un premier point, l'acceptation de son rôle et tout ça. Et l'autre chose aussi qu'on a vu, et dont on a déjà parlé, il me semble, dans des épisodes précédents, c'est qu'on le voit beaucoup plus à la passe, notamment dans sa relation avec Porzingis. Et là encore, la petite stat que j'ai relevée, c'est son ratio assist-turnover qui est de 1,34 cette année contre 1,18 la saison dernière. Alors, ça reste médiocre, on va dire, hein. 1,34, c'est pas exceptionnel, c'est même pas bon, Mais il y a quand même un peu de progrès et c'est quand même assez notable vu le nombre de fois où on lui a tiré dessus, peut-être un peu trop facilement. Quand il fait des progrès, même s'il passe de médiocre à correct, on va dire, ou à juste à peine bon, c'est quand même notable. Donc voilà, ouais. Merci John Bond pour les efforts. Maintenant que tu as signé ton gros contrat, tu es un peu plus focus et ça fait plaisir si ça nous permet de ramener un titre.
Ouais. Hugo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup, ou tu avais dit tout ce que tu avais à dire dans ta magnifique déclaration de début d'épisode?
Alors j'ai dit l'essentiel, je pense, juste pour ajouter par rapport à ce que vient de dire Titouan parlait de notamment de son jeu sans ballon en attaque. Moi j'en ai un peu parlé dans l'introduction, mais surtout son jeu sans ballon aussi en défense. Et ben, globalement, jeu sans ballon en défense évidemment, mais ça c'est un petit pléonasme ce que je viens de faire. Mais enfin sa défense globalement cette année, qui est à des années-lumière de ce qu'on a vu. En fait, on retrouve le Jaylen Brown qu'on avait entreaperçu sur la bubble, où il avait été très très bon. Là, on le voit, mais vraiment quasiment tous les soirs en fait, accepter son rôle, se dire, enfin, il dit lui-même au final, il a envie d'être reconnu aussi pour sa défense. Et bah, souvent, il y a des discours comme ça, des discours de superstars et de joueurs NBA, qui disent justement qu'ils veulent être de meilleurs défenseurs. Mais lui, pour le coup, ben, c'est vraiment le cas. Il a vraiment step up de ce côté-là du terrain, et bah pour le mieux. Et après, pour rejoindre encore ce qu'a dit Titouan, je suis d'accord avec tout. Moi je tiens à mettre peut-être un petit point quand même sur la table, c'est que finalement on voit le Jaylen Brown qu'on avait envie de voir au moment où le staff a changé dans sa quasi-intégralité. Donc est-ce que encore une fois, on peut pas vraiment savoir si le staff y est pour 100% dans là-dedans, mais malgré tout, toujours est-il qu'il est bien mieux utilisé avec ce staff-là. Donc, bah, c'est à signaler, en espérant que ça continue. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit dans ma petite intro, maintenant, là où on l'attend vraiment, ça sera en play-off, et voir s'il peut évoluer, notamment face à des défenses de zone comme Miami, et peut-être aussi comme Philadelphie enfin, ce que Philadelphie pourrait proposer également.
Je me permets de rajouter, c'est vrai que, parce que Hugo parlait du staff, et c'est vrai qu'on fait des bilans de mi-saison de joueurs, mais c'est quand même intéressant de noter, je pense qu'il faut le mentionner, le staff et alors Mazzulla et son staff. Mazzulla a eu quand même pas mal de critiques après l'élimination en playoff l'année dernière, et je trouve que, alors, comme le dit Hugo, c'est difficile de savoir à quel point le nouveau staff a une influence sur Mazzulla, sur le coaching, sur les joueurs, mais c'est quand même notable de voir les progrès en termes de coaching et de tactique, on va dire, que ce soit offensive ou défensive, de la part des Celtics cette année. Je pense que ce qui le montre le mieux, c'est cette polyvalence défensive et tous les schémas défensifs que propose Mazzulla et son staff, qui sont en plus qui dans l'exécution sont parfaites. Je pense notamment à cette zone 2-1-2 là qu'on a vu de plus en plus. Ouais, vraiment, je voulais juste voilà mentionner un peu le staff où on parle beaucoup des joueurs, mais il faut mentionner le step-up du staff et je pense que bah il y a pas de secret quand tu laisses un coach, tu laisses au coach le temps de s'entourer d'un staff qui veut vraiment qui veut être là et d'un staff qu'il a choisi lui-même avec un été entier pour travailler, bah il n'y a pas de mystère, tout de suite ça marche mieux.
Eh ben, du coup, on va enchaîner, on va passer au joueur suivant. Alors, au moment où on s'est fait notre petite répartition donc entre les épisodes pour savoir quelle équipe allait s'occuper de quel joueur, il y a quelques noms qu'on a laissés de côté, hein. Je pense notamment à Jordan Walsh qui a joué 0 minute cette saison. On a eu un gros blowout où on espérait le voir. En plus, il était sur le bord du terrain. Si je dis pas de bêtises, c'était contre les Clippers. Alors, ça tombe peut-être mal qu'on enregistre aujourd'hui parce que j'ai lu tout à l'heure qu'il avait été rappelé des Maine Celtics et qu'il va, donc, si ça se passe très très bien contre les Spurs, on aurait peut-être eu quelques minutes à commenter ce soir. Mais bon, le calendrier étant ce qu'il est. Je ne sais pas, est-ce que l'un de vous l'a regardé un peu Angélique, histoire de dire vraiment deux ou trois mots sur lui, ou pas du tout?
Moi, je l'ai regardé un petit peu. Peut-être que Google l'a vu plus que moi. Mais Angélique, je l'ai regardé un petit peu. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et je trouve qu'on voyait pas mal de ce qu'on voyait en Summer League. C'est-à-dire un joueur qui, même s'il sait que son shoot n'est pas sa qualité première, il les prend. Et pour moi, pour un joueur qui n'a pas de shoot, en fait, c'est important qu'il ait la confiance pour les prendre. Et qu'il s'arrête pas, même si le pourcentage n'est pas bon. Ça c'est le premier point que vraiment j'avais noté. Et l'autre point, mais ça c'est quelque chose qu'on savait déjà à la fac, c'est que bah, défensivement, en termes d'énergie et de polyvalence défensive, c'est une machine. Donc ouais, je suis un peu, j'avoue être un peu triste, surtout que j'étais très hypé par lui. Je suis un peu triste de pas le voir choper quelques minutes dans des blowouts, mais bon. C'est comme ça, il est jeune et si ça doit passer par une année en G-League, voilà, il y en a d'autres qui sont passés par là, hein, ce sera pas le premier.
Ouais, bah écoute, on espère peut-être qu'on le verra un petit peu ce soir. Hugo, tu as quelque chose à ajouter?
Non, bah, comme dit tout, je l'ai regardé, je l'avais pas beaucoup regardé, j'ai vu quelques matchs de G-League. Bah, il est plutôt bon, plutôt dans le rôle qu'on attendait finalement en fait, je trouve qu'il joue en G-League comme on pourrait le faire jouer par avec les Celtics, dans la mesure où il joue beaucoup off-ball. Enfin, c'est un peu le joueur qu'il est, mais il joue off-ball. On essaie de lui donner pas mal de volume à 3 points, pas mal aussi de possibilités d'attaquer les close-out, des choses comme ça, enfin des choses sur lesquelles vraiment il doit travailler. Donc ça, je pense que c'est aussi là-dedans on peut comment dire, dans le rôle qu'on compte lui donner en G-League, on peut souligner aussi le rôle de Jeff Van Gundy qui fait un peu dans notre staff, qui a ce rôle de consultant et de suivi justement des joueurs G-League et des Celtics en gros. Donc je pense que il doit pas mal aider aussi dans la vision dans le joueur qu'on veut créer en Jordan Walsh. Et non, finalement, bah, c'est plutôt ce qu'on attendait de lui en G-League. Un peu, comment dire, un peu déçu par certaines choses, notamment en défense. Je pense que, bon, après, c'est de la G-League, hein. C'est sûr qu'il n'est pas non plus accompagné des meilleurs défenseurs. Je pensais qu'il pouvait faire un peu mieux, mais en tout cas, dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est hustle play, etc., et même en attaque, dans sa globalité, je le trouve très très bon, déjà au niveau. Et après, on verra de toute façon, bon, pour ce qui est de la défense et des batailles physiques, il faudra encore quelques années, même en saison régulière, pour être déjà au niveau défensif nécessaire pour vraiment se faire une place dans une rotation pérenne. Mais non, pour l'instant, plutôt encourageant. Après, pour ma part, je ne m'attends pas à le voir jouer du tout cette année. Je pense qu'il jouera plutôt l'année prochaine. Ou alors, il jouera les derniers matchs quand on aura lock notre site de playoff, mais je ne le vois pas avoir plus.
Ok. Bon, tant qu'on est sur la G League, vu qu'ils font quand même partie de l'effectif, on va citer les noms de Drew Peterson et de JD Davison, qui ont joué un total impressionnant de 3 minutes chacun cette saison. Que on en dit quelque chose ou on passe?
Bon, je pense qu'on peut passer, sinon on va devoir aussi parler de ceux qui donnent la Gatorade, et ça serait l'émission fera 3 heures, quoi.
Ok,
Faut
ça marche.
avoir un bon timing, hein, la donner au bon moment, quand le joueur a soif, exactement au bon timing, pas facile.
C'est sûr que sans eux, je pense que Tatum n'aurait pas fait son match à 45 contre les Timberwolves.
Ok, bon, alors on va passer à un joueur qu'on a vu un petit peu plus, pas beaucoup plus, mais enfin, si, quand même beaucoup plus, mais on va dire qu'il n'est pas dans le haut de la rotation. C'est Dalano Banton. Hugo, je vais te lancer parce que je me souviens que tu étais assez content qu'on ait récupéré Banton. Il a joué 19 matchs pour une petite moyenne d'environ 7 minutes. On va dire qu'on l'a pas vu beaucoup, mais on a, je pense, le luxe de pas vraiment avoir besoin de lui. Du coup, voilà. Toi, Hugo, est-ce que tu es satisfait de ce qu'il apporte? Est-ce qu'il répond aux attentes que tu avais?
Bah, aux attentes, je sais pas. Après, c'est sûr que c'est pour moi, c'est un joueur en fait qu'on a signé. Il a quel âge, Banton? Il doit avoir 23 ans, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc en fait, 24, 199. Donc non, en fait, pour moi, c'est un joueur qu'on a pris un peu comme ce qu'on fait dans le football, ce qu'on peut appeler la post-formation. En fait, c'est un joueur qui est arrivé de la fac en n'étant pas finalement fini d'un point de vue basket. Et je pense que c'est un peu le projet de Banton, hein. C'est pour ça qu'on l'a signé 2 ans aussi. C'est de voir la première année et de éventuellement voir ce qu'on peut faire deuxième année. Je crois qu'elle est optionnelle en plus la deuxième année. Donc on voit la première année si finalement il y a vraiment quelque chose à en tirer avec ce profil qui est ultra intrigant. Et on voit encore une fois cet été si il pourra assurer une place dans la rotation l'année prochaine. Moi en tout cas je suis plutôt content de ce que j'ai vu. Je pense que honnêtement Dalano Benton il est vraiment un shoot potable d'être un vrai role player NBA dans le sens où il fait tout bien à part le tir en fait. Donc il défend vraiment pas mal. Il apporte du playmaking. Quand je parle de défense, justement, avec sa longueur, il est capable de, je vais pas dire de dissuader, parce que c'est plutôt les rim protector, mais plutôt de toucher un peu beaucoup de ballons, notamment sur les lignes de passe, etc. Moi, je le trouve ultra intéressant. En attaque, encore une fois, il apporte du playmaking. Il est très bon sur les cuts. Franchement, très très bon joueur. Je pense qu'en plus, travailler au quotidien avec Jrue Holiday, ça va pouvoir l'aider de ce point de vue-là sur le cutting game. Après, c'est vrai que Dalano Benton, on l'a pas vu beaucoup, parce qu'il a toujours sa limitation au shoot, comme je l'ai dit. Et si on l'a pas vu beaucoup également, c'est parce que il est derrière une. Enfin voilà, on a une rotation au niveau des gardes qui est quand même assez incroyable. Donc oui, c'est sûr qu'on l'a pas vu beaucoup, mais encore une fois, je trouve que quand on l'a vu, quand il a eu quand même, il y a un moment où il avait des minutes dans la rotation. Il enchaînait pas mal de, enfin, il enchaînait 2-3 matchs à 10-15 minutes et franchement, il rendait de fiers services. Donc, non, je trouve que quand on fait appel à lui, il est capable de répondre présent. J'en attendais pas plus, en tout cas, d'un Obenton cette année. Donc, je suis plutôt content. Après, je pense que je comprends, en tout cas, ceux qui sont un peu plus sceptiques, mais pour ma part, je trouve que c'est une bonne pioche.
Ok. Titouan, toi, est-ce que tu es un peu plus sceptique ou t'es plutôt d'accord avec Hugo?
Alors, moi, j'étais plus sceptique à sa signature. C'est un joueur dont j'étais pas spécialement fan à sa draft. Et finalement, il m'a assez convaincu sur le peu de minutes qu'il a eu. J'aime beaucoup sa longueur, même son ball handling pour sa taille. Il a une, bon, forcément, sa taille l'aide à avoir une bonne vision du jeu. Son passing game, même son handle sont plus que corrects. Et c'est surtout en défense que je trouve hyper intéressant. Bon, encore une fois, bien aidé par sa taille, mais ouais, je trouve souvent bien positionné. Il fait pas d'erreurs, contrairement à beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes font des erreurs souvent dans la défense. Lui, je le trouve vraiment bon là-dessus. Donc ouais, non, il n'y a pas de, enfin, il y a beaucoup de choses où il m'a plu. Après, bien sûr, comme l'a dit Hugo, en fait, il est à un shoot d'être un meneur backup plus que convenable, en fait. Et je dirais même, alors plus qu'un shoot, je dirais même à une finition. Parce que parfois, par contre, la finition, même près du cercle, sans même parler du shoot extérieur, même sa finition près du cercle, parfois, ça te fait sauter du canapé. Mais non, ouais, il est à une main, en gros, une main près d'avoir une rotation dans une bonne équipe en NBA.
Bon, une main, c'est quand même pas rien pour un basketteur, mais ok,
Ah, c'est sûr.
bon, voilà, on note, ça marche. Eh ben écoute, je vais revenir vers toi dans pas longtemps, Titouan. On va passer à un joueur qu'on voit beaucoup plus pour le coup, qui est une part importante de la rotation des Celtics. Il a manqué un seul match cette saison. Il a été titularisé 4 fois, avec une durée moyenne de 22 minutes de jeu. On va parler d'un de tes chouchous, hein. On va passer à Sam Hauser. Sam Hauser, dont on a cru à ses débuts qu'il était simplement un spécialiste du 3 points, et puis il s'est révélé être bien plus important que ça. Il nous a montré qu'il était capable de faire de gros efforts, notamment en défense. Aujourd'hui, il est le 7e homme, hein, dans cette rotation des Celtics, derrière notre 6, on va dire, pour ce qui est du temps de jeu et du temps passé sur le terrain. Donc, Titouan, comment tu analyses, toi qui dois y avoir en plus un œil particulièrement attentionné, comment tu analyses cette première moitié de saison pour Sam?
Un œil attentionné, mais peut-être pas objectif.
Merci.
Non, je trouve que, alors offensivement, on a eu ce pourquoi on l'avait signé, on le savait, c'est son spacing, son shoot qui est incroyable. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Là où j'ai eu la plus grosse surprise, c'est sur sa défense. Au tout début, on le pensait négatif. On pouvait s'attendre éventuellement à ce qu'il soit, on va dire, neutre. Et finalement, il est, je dirais, neutre plus. C'est-à-dire qu'il est capable sur certaines séquences de même être un peu positif. On l'a vu sur quelques séquences, faire plus que juste le strict minimum. Alors, je ne veux pas dire qu'il a anéanti les meilleurs attaquants adverses, mais il est régulièrement ciblé. Et d'ailleurs, on en entend souvent parler dans les médias. Mazzulla communique beaucoup là-dessus aussi, que Sam Hauser, dès qu'il est sur le terrain, il est régulièrement ciblé par les attaques adverses. Et en fait, les fois où il est ridicule, elles sont assez rares finalement. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est un excellent défenseur, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je le trouvais assez peu mobile, notamment latéralement. Et finalement, bah en fait, entre son intelligence, son placement, et je pense qu'il a un peu pris aussi de gabarit qui fait que, bah, mine de rien, il arrive à contenir quelques attaques assez régulièrement. Donc ouais, grosse surprise sur son niveau défensif. Par contre, j'ai noté un petit truc que j'avais peut-être pas vu les années précédentes. Alors est-ce que j'étais aveuglé par mon amour pour lui? Je ne sais pas. Mais que j'avais pas vu et que souvent Hugo et Pierre notamment le relevaient assez régulièrement. C'est sa sélection de tir. Ou parfois, il a un peu trop de tirs forcés. En fait, on a vraiment l'impression qu'on lui a dit, écoute Sam, t'es sur le terrain, t'es à 3 points, dès que t'as la balle, tu shootes. Et le problème, c'est qu'il le fait peu importe qu'il y ait un défenseur devant lui ou pas. Et des fois, ça amène à des séquences où ouais, il a tendance à forcer un peu trop des tirs, à être un peu trop en mode automatique, même s'il n'est pas spécialement ouvert. Et quand tu vois ses pourcentages à 3 points, tu dis, si tu gommais ces deux, trois petits shoots là, tous les, on va dire, un ou deux shoots par match que tu prends alors que t'es pas ouvert, et que ouais, tu prends un peu tu fais un peu le mauvais choix. Si tu gommais ces deux, trois petits trucs là, tu pourrais être encore meilleur, quoi. Donc c'est le seul petit truc moi qui me gêne un peu chez lui. Sinon, pour moi, que ce soit en termes de minutes, de responsabilité, d'apport des deux côtés du terrain, il répond aux attentes. Même plus que ça si on compte le niveau défensif.
Ok, alors on va demander l'avis d'Hugo, mais je ne sais pas si Hugo va être totalement objectif aussi, parce qu'il a peut-être un petit grief avec Sam, même si ce n'est pas vraiment de sa faute. On se rappelle que l'année dernière, Hugo était ravi d'avoir Gallinari parmi nous. Il s'est blessé, du coup, c'est les minutes qui auraient dû être les siennes ont finalement été pour Hauser. Et cette saison, vu qu'on sait qu'il apprécie aussi particulièrement Zvi Mihailiuk, il nous disait en début de saison qu'il pensait qu'il serait capable d'aller gratter sur les minutes de Hauser et ça n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo, toi, de cette première partie de saison pour Sam?
Non, bah plutôt convaincu par Hauser dans son ensemble, rien à dire sur son jeu offensif. C'est vrai qu'il prend parfois quelques tirs un peu, comment dire, compliqués, mais ça reste un spécialiste, donc on peut lui accorder. De toute façon, il en met énormément, même de tirs très compliqués, donc on va pas lui en vouloir. Par contre, je serais un peu plus mesuré sur la partie défensive, parce que c'est vrai que il est moins négatif que ce que tout le monde pouvait penser. On arrive bien, je vais dire à le cacher, mais à le faire jouer en tant que off-ball wing en fait en défense, donc vraiment le mettre off-ball, le mettre sur ce que les Américains appellent l'island, quoi, Hauser Island, quoi, donc le mettre en 1v1, commencer en 1v1 à l'opposé, finalement, bah après revenir sur vraiment une isolation quand l'attaque va essayer de le cibler. Et je trouvais plutôt efficace là-dedans, hormis quand on a joué le Thunder et que Shai a décidé de faire tout ce qu'il voulait avec chacun des défenseurs des Celtics. Et sur ce match-là, Hauser a vraiment mangé pas mal. Mais bon, encore une fois, quand le MVP de la ligue Voilà, je le dis, je lance la campagne Genghis Alexander MVP. Mais voilà, quand un joueur aussi fort a envie de marquer des paniers, je pense qu'il peut le faire sur n'importe qui. On va pas en vouloir à Sam Hauser d'avoir mangé ce soir-là. Ça arrivait à d'autres gens très très bien. Mais sinon, ouais, très intéressant aussi sa rim protection en défense. Donc, je trouve vraiment, avec sa longueur, etc., il est capable de gêner pas mal de tirs et d'être efficace. Par contre, encore une fois, je me pose la question en playoff, parce que là, je parlais de Shea. Mais je pense qu'il va être pas mal ciblé. S'il arrive à rester au même niveau défensif qu'il a actuellement, franchement, ce sera quelqu'un qui pourra amener 15-20 très très bonnes minutes en playoff. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Vu son contrat, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui demande.
Ok. Et donc, on parlait tout à l'heure de... Bon, alors on en a parlé très rapidement, mais de Drew Peterson et de JD Davison. On va parler du troisième joueur qui est en two-way contract chez nous. Mais lui, il a eu un rôle plus important. On l'a beaucoup plus vu sur le terrain, en tout cas. C'est Nimias Keita. Nimias Keita, dont on a pu se demander à un moment s'il n'allait pas piquer un peu la place de Luke Kornet. Quand Kornet a été blessé, il a repris quasiment à la minute près son temps de jeu. On est sur un scoring similaire. Alors bon, on a des profils assez différents. On voyait quasiment comme une évidence le fait que Keita allait à un moment ou à un autre quitter sa condition de two-way et prendre le dernier spot de l'effectif. Sauf que depuis que Kornet est revenu de blessure, on l'a quasiment plus vu. Cette place de troisième pivot, elle semble bel et bien promise à Luke, ce qui n'empêchera pas forcément Keita de rentrer dans l'effectif principal. Hein, mais voilà, apparemment, il sera, pour l'instant, en tout cas, il semble être derrière Luke Kornet dans la rotation. Qui est-ce qui se lance sur Nimias?
C'est un joueur que j'aimais beaucoup aussi. Je sais que Hugo était un petit peu moins chaud que moi là-dessus, mais que j'aimais bien. Par contre, comme tu l'as dit, profil très différent de Luke Kornet. On va dire que Luke Kornet a eu une mauvaise passe quand Keita a commencé à jouer. Enfin, on va dire que ça matchait plutôt pas mal, du moins d'un point de vue Celtics. Et ensuite, après la blessure de Kornet, quand Kornet est revenu de blessure, c'est vrai que là, depuis qu'il est revenu, Kornet fait quand même des bons matchs. Donc ça arrange pas les affaires de Keita. Mais Keita, c'est un peu au final le même, on va dire, comme Hauser, on est un peu sur la même chose. C'est que c'est un gars qui fait ce qu'on attend de lui, ni plus ni moins. Moi, je le trouvais être un bon protecteur de cercle. Encore une fois, hein, pas élite, on parle d'un gars qui est en two-way contract. Mais je trouvais que c'était un bon protecteur de cercle, qui avait une mobilité plus que convenable pour son gabarit, qui roule bien vers le cercle et qui avait plutôt des bonnes mains. Et au final, c'est exactement ce qu'on a vu sur le peu de fois qu'on a vu. Là où j'ai été un peu déçu, c'est sur sa naïveté défensive, où parfois il a un peu tendance à vouloir contrer tout ce qui bouge, quitte à faire énormément de goaltending, ce qui peut parfois saouler Mazzulla, je pense. Donc, c'est le petit truc qui m'a un peu déçu, parce que mine de rien, même s'il est en two-way contract, Nemias Keita, c'est pas un tout jeune qui vient de se faire drafter l'année dernière. Il avait déjà passé 2 années, si je dis pas de bêtises, aux Kings. Donc c'est un gars qui a quand même déjà 2 années et demie d'expérience, on va dire, en NBA, même s'il a essentiellement été en G League. Donc j'ai un peu plus de mal à lui excuser ces petits problèmes de naïveté défensive, même si on sait que chez les pivots, ça prend toujours un peu plus de temps. Donc voilà, je le trouve limité, mais il correspond assez bien au rôle de troisième pivot dont on a besoin. Et en plus, comme on l'a dit, profil différent de Kornet, donc c'est pas mal pour avoir plus de polyvalence au niveau des line-up.
Ok. Hugo, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, pour ma part, je comprends par exemple que Kornet soit devant lui dans la rotation, simplement parce que je suis d'accord sur tout ce qu'a dit Titouan sur Keita. Par contre, moi, le vrai point faible que je trouve à Keita, c'est justement ses mains. Je trouve que niveau finition, c'est difficile. Parfois, c'est vraiment difficile. Et Là où en fait Cornette, par sa taille, justement sa finition, et également son passing, est un peu plus intéressant, en tout cas en attaque, parce qu'il apporte justement une autre option en attaque. Enfin, il apporte vraiment quelque chose, une autre dimension, je trouve, à notre attaque. Alors que Keita, bon, ok, c'est un super rebondeur offensif pour le coup. Franchement, dès qu'il est sur le terrain, bah, niveau présence, rebond, en attaque, enfin, il apporte énormément de deuxième chance. Il est capable aussi de remonter après ses rebonds. Donc ça, c'est un point très positif. Après, encore une fois, une naïveté défensive, bah, ça, on peut pas trop le contredire. Hein. Le nombre de goaltending qu'il fait, parfois, c'est vraiment, honnêtement, je parlais des tweets assassins que je mettais sur Jaylen Brown. Des fois, quand je vois les goaltends de Nimias Keita, j'ai à deux doigts de tweeter aussi des choses très très sales, parce que franchement, parfois, enfin, des fois, il saute alors que le ballon a déjà touché le plexi. Il va quand même le contrer. Je suis en mode, mais réfléchis, enfin, branche le cerveau, fais quelque chose. Mais sinon, non, ultra intéressant. Je pense qu'il va pas tarder à avoir son contrat garanti et même signé sur quelques saisons, un peu à la manière de ce qu'on avait fait Causer, justement. Je pense que si on fait pas un move à la deadline dans lequel on. Comment dire? Si on a toujours un spot ouvert à la deadline, je pense que Keita prendra son contrat et ça sera la meilleure chose à faire de toute façon. Mais encore une fois, oui, non, moi je comprends que Cornet joue plus que lui, parce qu'il apporte autre chose et il est un peu plus valuable, même si la défense de Cornet peut faire peur parfois. Je trouve que, bon, encore une fois, c'est un luxe aussi d'avoir Keita en quatrième intérieur. Ça, c'est vrai que c'est un luxe.
Mais par contre, c'est vrai que Hugo faisait le parallèle avec la situation contractuelle de Sam Hauser, enfin comment on a géré la situation contractuelle de Hauser. Et si on peut faire la même chose avec Keita, on n'est pas à l'abri de se retrouver avec une belle petite surprise, un peu comme Hauser, où, bah, comme Hugo l'a dit, à Hauser, il a ses qualités, il a ses défauts, mais quand on voit ce qu'il apporte vis-à-vis de son contrat, c'est incroyable d'avoir un joueur qui a un tel apport par rapport à ce contrat, je veux dire au prorata de son contrat. Et Nemes Keita, si on arrive à lui signer un contrat sur 2 ou 3 ans, pareil dans les mêmes eaux, à un peu plus du minimum, à peine plus du minimum, bah, on n'est pas à l'abri qu'avec un été supplémentaire avec l'équipe à se développer, en fait, dans 1 an ou 2, ça devienne notre, quand Horford part, par exemple, ça devienne notre pivot. Numéro 2 ou 3, on va dire 2,5, 3, un contrat plus que raisonnable, et il deviendra un des pivots où, avec l'apport, on va dire, apport slash salaire le plus intéressant de la ligue. Si les progrès viennent évidemment avec.
Mais quand Horford partira, tu veux dire dans 4-5 ans?
Ouais, voilà, exactement.
Ou dans
Ou
bon, non mais tu m'as fait peur sur le coup. Bon.
Je crois que Hugo, il veut dire dans 4-5 jours.
Ouais, 2 semaines max. Bon,
Bien, bien, bien. Bon, les gars, je vous propose d'enchaîner. Il nous reste 3 joueurs à traiter, dont 2 gros morceaux. Donc, on va commencer par l'un de ces deux-là, à savoir Jrue Holiday. Jrue Holiday, qui a donc été le malheureux dans l'histoire du blockbuster trade de Damian Lillard, et que Brad Stevens a eu la bonne idée d'aller récupérer. Alors, il a tout de suite montré un bel état d'esprit. Il a déclaré qu'il était très heureux d'être chez les Celtics, qu'il était au meilleur endroit pour rivaliser avec son ancienne équipe, alors que bon, quelques heures plus tôt, il disait qu'il voulait finir sa carrière chez les Bucks, mais bon, évidemment, ça fait partie du jeu. Il a vite fait voilà, enfin, donner une sensation de coéquipier modèle. Il a dit, au moment où on ne savait pas trop à quoi ressemblerait le 5 majeur des Celtics, il disait que lui était prêt à sortir du banc. Bon, tout ça, c'est que des paroles, mais il y a quand même un vrai changement de rôle pour lui, puisqu'il est passé d'un rôle d'organisateur principal en attaque, et de, on peut presque dire, de seconde option, parce que Middleton a été beaucoup blessé. Et maintenant, bah, c'est la cinquième option. Il partage la balle avec Jason Tatum, avec Derrick White, avec Jaylen Brown. Bon, voilà, c'est un vrai changement de statut pour lui. Mais voilà, il fait sa saison. Il emmène avec lui sa science de la défense. Hein. On en parlait quand il est arrivé en se disant qu'avec la perte de Marcus Smart, ça ferait pas de mal. C'est pas la même défense, même si on est sur deux gros défenseurs. On en discutait. Je me rappelle que c'est Elias hein, qui nous disait que certes, Marcus Smart, il y avait le seul, mais que voilà, que Jrue Holiday, c'était quand même plus carré, plus intelligent peut-être. Allez, je vais lancer Titouan. Titouan, toi, comment est-ce que tu as vécu cette arrivée de Jrue Holiday chez nous, son intégration et puis bon, et puis ça, voilà, sa première partie de saison tout simplement.
Alors moi j'étais assez hypé par lui, pas forcément par ce qu'il apporte offensivement, étonnamment, parce que offensivement je trouvais, alors je vais pas dire le mot surcoté, mais je trouvais qu'en fait il réglait pas vraiment les soucis qu'on pensait avoir au début de la saison, c'est-à-dire les soucis de playmaking, de ball handling on va dire. Parce qu'en même temps, je pense que personne s'attendait à ce que White soit aussi incroyable. Mais voilà, je trouvais que le playmaking, le ball handling de manière générale de Jrue Holiday était pas exceptionnel. Par contre, défensivement, j'étais énormément hypé de le mettre de pair avec Derrick White. Où on a deux profils de, enfin deux défenseurs, deux gardes. Défensifs qui sont vraiment bah, qui peuvent défendre dans plein de systèmes différents. Et d'ailleurs, on le voit, Mazzulla s'en donne à cœur joie de proposer plein de systèmes défensifs différents. Et on en parlait un peu plus tôt, mais notamment sa capacité à jouer dans la zone 2-1-1-2, là, en forme de un peu dans un rôle de safety. Je le trouve incroyable dans ce rôle-là. Quand on est sur de la défense un peu plus traditionnel homme à homme, voire de switch all, c'est un des meilleurs navigateurs à travers les écrans avec justement Derrick White. Et ouais, je le trouve tellement important dans la défense où, comme on l'avait déjà dit un peu précédemment, là où Smart faisait des actions défensives, c'était plus un playmaker défensif, Jrue Holiday va pas forcément te faire l'interception, le plongeon que Smart ferait. Par contre, il fait très très peu d'erreurs. C'est beaucoup plus propre comme tu l'as dit. Donc ouais, moi là, sur la première moitié de saison, là, je suis scotché entre guillemets par le niveau défensif de Jrue Holiday. On savait que c'était un très bon défenseur, mais moi je savais pas que c'était un défenseur aussi polyvalent en fait. C'est surtout sa polyvalence défensive que je trouve incroyable. Donc ouais, par contre, en attaque, ce qui me gêne un peu, c'est trop de pull-up. Je m'étais noté trop de pull-up. Il y a encore trop de pull-up à 3 points. En plus, il a une adresse qui n'est pas forcément super régulière. Donc ouais, c'est le petit défaut qui me gêne un peu. Mais sinon, non, pas grand-chose à reprocher à Jrue Holiday sur son début de saison. Moi, ouais, je suis très content de son apport.
Ouais, c'est vrai que les pull-up à 3 points, ça peut agacer, mais après il y a eu 2-3 matchs quand même où il fait mouche plusieurs fois d'affilée et où ça fait quand même bien plaisir. Qu'est-ce
C'est
que
comme tout, hein. C'était pareil avec le Cav Jaylen Brown. Les pull-up à 3 points, ils font plaisir quand ils rentrent. Quand ils font pas plaisir, tu te dis pourquoi t'as pris ce tir-là.
ouais, c'est après c'est sûr que c'est le principe.
Mais c'est juste que, disons que tu le pardonnes plus quand c'est ton franchise player qui prend ce pull-up à 3 points que quand c'est ton troisième, voire quatrième, voire cinquième option offensive, quoi.
Ouais. Hugo, comment tu es toi sur le cas Jrue Holiday?
Juste parce que vous venez d'en parler, donc je suis allé juste checker la stat en vitesse. Sur les pull-ups, il est quand même à 36%. Alors c'est pas incroyable, mais c'est vrai qu'il y a une grosse fréquence. Il en prend 4 par match, donc c'est beaucoup, mais c'est pas catastrophique, quoi. Donc
Ouais, c'est plus la fréquence que je lui reprochais, hein, plus que l'efficacité.
ouais,
Mais ouais.
je trouve. Non, c'est vrai que parfois ça peut agacer. Après, non, je roule l'idée dans son intégralité. Je pense que c'est. Ben moi, je m'en suis jamais caché. Hein. J'étais très content du trade de Smart dans, enfin, plus par rapport aux joueurs que le trade de Smart a apporté, dont on parlera un peu après. Et j'étais plutôt content du trade d'Holiday. Je pensais que, bah, comme Titouan en fait, et comme Azad, dont on avait parlé bah, dans le podcast qui a suivi le trade, il me semble, j'étais un peu circonspect par rapport à son apport offensif, même si je trouvais qu'il était bien meilleur que Smart quand même en attaque. Mais je trouvais ça valait pas forcément, enfin, on avait payé quand même cher pour la petite upgrade en attaque, mais je trouve qu'en défense c'était plus versatile quand même. Et non, au final, bah, je suis conquis par l'idée. Bah, encore une fois, il a pas ça on le savait, hein, c'est pas un très bon playmaker, etc. Mais on n'en a pas vraiment besoin parce que, comme Titouan l'a dit, White est exceptionnel cette année. Tatum est aussi très 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 fort en playmaking cette année. Ça, c'est un point. Enfin, qu'il faut souligner parce que Tatum au playmaking cette année il est vraiment 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 très très fort. Il est capable justement de doter une charge de travail assez énorme pour tous ses coéquipiers, dont Holiday, on parlera aussi après de Porzingis. Mais non, Holiday, franchement, rien à dire. Il est capable en plus lui de step up quand on a besoin. Là, on enregistre le 17 janvier. Il y a quelques jours, on a joué Toronto, un match un peu traquenard où on joue pas très bien au global. Enfin, franchement, longtemps j'ai cru qu'on pourrait perdre ce match. Et au final, bah, qui sort de sa boîte pour mettre ses 20 points, 22 même, Jrue Holiday. Et à chaque fois qu'on a besoin de lui, je pense aussi au match face aux Timberwolves bah, que j'ai mentionné tout à l'heure, quand il faut mettre le gros tir assassin en fin de match, qui sort de sa boîte, Jrue Holiday. En fait, à chaque fois, bon, évidemment, il va passer à côté de quelques matchs, mais quand on a besoin de lui, franchement, il répond présent. Et ça, c'est quelque chose qui finalement n'a pas de prix. Hein. Ok, on a payé cher le Jrue Holiday, mais pour l'instant sur le terrain, il répond plutôt bien. Et là, je regardais des stats. Enfin, Chris Forsberg pour NBC Sports Boston a sorti un article assez, alors assez marrant. En gros, il recense les bilans des Celtics en fonction des stats. Et au final, on se rend compte que quand Jrue Holiday, enfin, défend, intercepte, contre des ballons, les Celtics sont vraiment, enfin, ont un bilan vraiment exceptionnel. Donc Jrue Holiday fait tellement de choses qu'il rend l'équipe meilleure, quasi, bah, je vais pas dire lui tout seul, mais qui contribue vraiment à rendre l'équipe meilleure. Il apporte énormément dans un 5 qui est déjà très 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 chargé. Donc non, franchement, je pense que, en tout cas, personnellement, je pouvais pas rêver mieux de Jrue Holiday, enfin des performances de Jrue Holiday quand on a transféré pour lui. Parce que non, finalement, c'est un complément parfait pour nos deux stars et pour notre 5, en fait. Il fait tellement de choses. Même si ses stats sont un peu en baisse, il fait tellement de choses. Encore une fois, on parlait tout à l'heure du cutting de Benton. Je pense que Jrue Holiday est limite l'un des tout meilleurs cutters de la ligue. Il apporte tellement de solutions là-dessus que non, franchement, c'est vraiment un luxe d'avoir Jrue Holiday comme quatrième option offensive et comme connecteur dans le 5 de départ qu'on a.
Ok,
Je vais
merci du coup. Ouais,
digresser un peu.
vas-y, Titouan.
Je vais digresser un peu, mais de manière générale, alors c'est valable pour Jrue Holiday, mais je trouve que ce qui fait la force des Celtics cette saison, c'est que nos principaux joueurs, on va dire les Jays, Porzingis, Holiday, White, en fait, ils font, ou on peut même rajouter un Samozor là-dedans, ils passent rarement à côté de leur. Enfin, il n'y a pas beaucoup de matchs où à la fin du match, tu te dis, ce joueur-là, il a été catastrophique. Parmi nos cinq titulaires, en tout cas, il y a peu de matchs où tu te dis, ah, sur ce match-là, il a vraiment été catastrophique. Il y en a quelques-uns, mais il y en a vraiment très peu. Et je pense que c'est ce qui fait la force des Celtics cette année. C'est pas le niveau de leur franchise player, c'est pas la profondeur. C'est vraiment le fait qu'en fait, les soirs où on n'est pas dedans, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a des soirs où on n'est pas bon, mais pas au point de se dire, voilà, il y a tout acheté. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est quand même assez rare, et je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'on a le meilleur bilan de la ligue jusqu'à maintenant. Voilà, c'était petite parenthèse, parce que justement, Hugo parlait du côté Jrue Holiday vraiment régulier dans les performances.
Ouais, tu voulais aussi bien rappeler qu'on a le meilleur 5 de la ligue et
Tant qu'à
parce
faire.
on l'avait pas encore dit aujourd'hui, c'est vrai. Non
Ah
mais
mais
oui, c'est vrai que d'avoir. Vas-y Hugo, excuse-moi.
non, bah, on n'a pas que le meilleur 5, on a la meilleure équipe de la ligue. Hein. On va
Et le
pas.
meilleur coach?
Aussi, bah, ça, je m'en suis jamais caché.
Et les meilleurs porteurs de Gatorade, apparemment.
Aussi, aussi.
Du coup, on est au top. Allez, bon, bah alors du coup, on continue. Et on va parler maintenant d'O'Shea Brissett. O'Shea Brissett qu'on voyait comme... Bon, alors il arrive à la place de Grant Williams, on se doutait bien qu'il y aurait un step down assez conséquent. On le voyait comme un possible energizer, on se disait que voilà, qu'il pourrait rentrer dans des moments que ça pourrait être intéressant. Il fait pas un début de saison fantastique, il joue pas beaucoup. Et puis depuis quelques matchs, on le voit un peu plus. Hugo, tu disais tout à l'heure que il y avait une petite période où Banton avait joué quelques matchs d'affilée où il avait eu un peu plus de minutes, il avait eu un peu son moment. Là, moi, j'ai le sentiment que c'est un peu le moment de Brissett. Je trouve que c'est après, c'est peut-être une fausse idée que je me fais, mais j'ai l'impression qu'on le voit un petit peu plus là depuis quelques matchs. Bon, c'est rarement des grosses minutes, mais il a quand même joué 23 matchs. C'est clairement, quand on regarde les temps de jeu de l'équipe au complet, on va dire que c'est vraiment le joueur entre la rotation principale et le fond de banc. C'est le dixième homme. Hein. C'est vraiment, voilà, avant lui, ça joue tous les matchs. Après lui, ça joue presque pas. Moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a un petit peu de mieux ces derniers temps. Bon, il est évident qu'on devrait pas trop compter sur lui pour les playoffs, mais il s'est même trouvé une petite réussite à 3 points. Donc bon, Hugo, je sais que tu n'es pas son plus grand fan, mais je vais quand même te lancer en premier sur O'Shea Brissett.
Bah c'est sûr que je suis pas son plus grand fan. Après, c'est vrai que moi, O'Shea Brissett, si on est dans une optique de le faire rentrer quand l'équipe a un petit coup de mou dans tout ce qui est intensité, énergie, etc., c'est un super joueur pour apporter vraiment de l'énergie, pour aller se battre, mettre finalement la tête. Enfin, j'aime pas cette expression, mais mettre la tête là où nous on mettrait pas le pied. C'est un peu du luxe d'avoir O'Shea Brissett. Et il y a un match comme ça au début de saison, alors je crois que c'était contre Miami de mémoire, où bah, l'équipe est justement totalement à côté. O'Shea Brissett rentre, il prend deux rebonds offensifs, je crois, et il remet l'équipe dedans au niveau énergie. Et là-dedans, je pense que bah, c'est un super joueur pour jouer ce rôle-là, ce rôle d'energizer, le rôle de réveil, en fait, de radio-réveil, quoi. L'équipe dort, vraiment, O'Shea Brissett, il réveille tout le monde, il met un petit coup là sur le parquet, il raye le parquet là avec son énergie, sa fougue, et ça remet l'équipe dedans. Par contre, là où je suis un peu sceptique sur O'Shea Brissett, c'est que il apporte franchement beaucoup, encore une fois, le rebond offensif, tout ça, mais il a quand même des défauts qui sont assez criants. Moi, le premier défaut que je vois en O'Shea Brissett, et Azad l'avait sorti, il me semble, dans un tweet l'été dernier quand on l'avait signé, c'est les stats d'O'Shea Brissett, enfin la réussite d'O'Shea Brissett proche du cercle. C'est catastrophique. Franchement, pour un joueur de sa taille, comment dire, de son profil, un joueur, voilà, vraiment athlétique, qui prend des rebonds, qui joue beaucoup proche du cercle, qui fait des cuts aussi, bah, franchement, il a une finition proche du cercle, c'est proche du néant, de la catastrophe. Et c'est problématique parce que franchement, il pourrait vraiment se faire une place s'il avait ça, et aussi un shoot à 3 points un peu plus décent. On l'avait dit, là, il avait fait une saison à 42% à 3 points. Là, il est plutôt autour de... Bon, encore une fois, il n'en prend pas énormément, donc ça, on peut pas lui en vouloir. Mais souvent, justement, les défenses font le choix de l'oublier. Souvent, il se retrouve dans le corner. Et malheureusement, il n'est pas capable de scorer. Ça, c'est un gros problème. Parce que s'il avait ça et un peu plus de finition, je pense vraiment que ça serait un joueur qui ne serait pas 9e homme. Ça serait un très bon, je pense, 8e homme. Franchement, ça pourrait être ça. Chez Brissette, ça pourrait vraiment être ça. Donc j'espère qu'on va lui engager le même shooter que le même, pardon, coach du shoot qu'avait Grant Williams, hein, le fameux The Little Shooter sur Twitter, hein, qui travaille avec les plus grands. Si on pouvait l'engager, ben, je suis pas contre, hein, parce que je pense vraiment que Chez Brissette avec un tir, ça serait pas loin d'être le joueur qui nous manque dans cette rotation pour être vraiment une équipe ultra stacked, une équipe vraiment, ce que les Américains disent, la fully loaded. Et franchement, chez Brissette, peut être cette différence.
Il faudrait qu'il passe un peu plus de son temps libre avec Sam Hauser, du coup. Titouan, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'Oshé Brissett sur cette première partie de saison?
Bah, comme l'a dit Hugo, énergie, rebond offensif, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, moi, quand je pense à Oshé Brissett sur cette saison, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est le mème de Dewey qui dit je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Parce qu'en fait, autant en attaque, on s'attendait pas à grand-chose. Donc effectivement, donc ça va. Mais par contre, moi, j'étais un peu déçu par sa défense. En fait, alors ok, il prend du rebond, il met de l'énergie, il met de l'impact, mais je pensais que avec justement cette énergie, ce profil physique, je pensais qu'il pouvait être plus fort et plus impactant que ça. Et alors je dis pas qu'il est mauvais défensivement, mais je le trouve en fait correct sans plus. Et alors visiblement, comme tu as dit, il reste quand même la principale rotation derrière le trio Horford, Pritchard, Hauser en sortie de banc. Mais ouais, défensivement, je m'attendais à vraiment, genre quand il rentre sur le terrain, surtout quand il rentre bah avec le banc et du coup qui joue qu'avec un ou deux titulaires, je me suis dit bah il va être le meilleur ou un des deux meilleurs défenseurs sur le terrain. Et c'est pas toujours le cas, donc ouais, un peu déçu sur son apport défensif. Et sinon, bon, comme dit, je vais pas paraphraser Hugo, mais effectivement, s'il pouvait lui aussi, comme Bonton, s'acheter des mains pour avoir une finition ne serait-ce que convenable au cercle, je veux dire, pas avoir de finition quand t'es un catch and finisher, c'est un peu embêtant.
Ça fait quand même pas mal de joueurs qui ont des problèmes avec leurs mains, tout ça. Mais Hugo, ouais, tu voulais rebondir, vas-y.
Alors, je suis d'accord avec Titouan sur la défense, mais surtout en début de saison, où je le trouvais décevant en défense. Par contre, là, je le trouve quand même meilleur, et surtout dans la défense, alors je ne vais pas dire collective, mais dans tout ce qui est situation d'urgence, en fait, où il faut réagir vite, il faut venir en aide, je le trouve vraiment très actif là-dessus et plutôt impactant. J'ai le souvenir, il me semble, j'ai plus le match en tête, mais peut-être Toronto, un des matchs contre Toronto, où il arrive, et sur la dernière action, ouais, ça doit être Toronto, et c'est Scotty Barnes, je crois, qui prend un tir en tête de raquette, enfin, il passe le premier rideau, et situation d'urgence, et Oshé Brissett arrive, mais vraiment comme une balle, pour venir faire l'aide défensive, et gêne complètement Scotty Barnes sur le tir, et bah, cette action-là, c'est une winning play, parce que ça nous apporte la victoire, mais bah, ça traduit bien, je trouve, l'évolution quand même défensive d'Oshé Brissett, qui a vraiment progressé par rapport au début de saison, et là, je trouve, c'est vrai qu'au début, comme Titouan le disait, il était parfois négatif, et là, pour le coup, je le trouve plutôt impactant, mais du bon côté. Pas comme, par exemple, un Niemiec-Kita par séquence ou un Luke Cornett que je trouve parfois vraiment en difficulté en défense. Lui, je trouve qu'il a su passer le step, et là, il est vraiment plus positif que négatif en défense. Même si ça reste pas, c'est pas Jrue Holiday ou Derrick White, mais ça reste un joueur qui est vraiment très correct, je trouve, en défense.
Ok, merci Hugo. Bon, eh ben, on arrive sur la fin. Il nous reste un joueur dont on doit parler. Ce joueur, c'est celui qui représente la grosse arrivée de cette saison chez les Celtics. L'homme dont l'arrivée a coïncidé avec le départ de Marcus Smart. Hein. Pardon, je sais que ça n'émeut pas beaucoup Hugo, mais je pouvais pas faire ce bilan des joueurs des Celtics sans faire une petite allusion à Marcus quand même. Je parle bien sûr de Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis, je vais vous laisser en parler. On avait plein de doutes à son arrivée. Enfin, la promesse était belle, mais on savait pas trop. Est-ce qu'il va s'intégrer? Est-ce qu'il va pouvoir rester en santé? Bon, pour ce qui est de son intégration dans le jeu des Celtics, je pense qu'on peut dire que c'est réussi haut la main. Titouan, je te donne la parole. Cette première moitié de saison de Kristaps Porzingis, est-ce que vraiment c'est ce qui nous manquait? Est-ce que cette ultra domination des Celtics sur cette première partie de saison, c'est grâce à son arrivée?
Oui, clairement, il joue un très grand rôle là-dedans. Moi, j'étais beaucoup hypé par le profil. Et en gros, j'étais hypé par l'idée théorique de Porzingis dans ce roster des Celtics, mais j'avais des doutes sur l'exécution, sur la pratique. Et au final, la théorie s'est confirmée, et dans la pratique, son efficacité sur post-up, je crois que c'est un, si ce n'est le meilleur de la ligue. Dans une ligue où on a quand même des joueurs de post-up pas si mauvais que ça, hein, avec des Jokic, des Embiid, sa protection du cercle, moi j'ai, enfin, il a souvent eu cette étiquette de mauvais défenseur. On l'a un peu défendu depuis le trade en disant attention, Porzingis c'est pas un si mauvais défenseur que ça. Et finalement, c'est même un meilleur défenseur que ce à quoi je m'attendais. Donc ça aussi, autre chose qui m'a énormément plu, et ça par contre c'était une surprise pour personne, c'est son shoot et en fait le spacing qu'il apporte. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout à quel point il est respecté par les adversaires. Parce que même si les pourcentages ne suivent pas trop, surtout dernièrement, en fait, il est une telle menace au shoot, notamment sur pick and pop, que le défenseur est obligé de le respecter. Et s'il ne le respecte pas, c'est sanction en fait. Et du coup, ça donne un spacing tellement incroyable que les Jays après, ou White ou Jrue Holiday s'en donnent à cœur joie à l'intérieur en fait. Et je pense que c'est vraiment le point, même si c'est la qualité que personne n'a jamais remis en cause chez Porzingis, c'est pas son efficacité sur post-up, c'est pas sa défense, c'est pas son passing dont je parlerai un peu après, c'est vraiment le spacing. On savait que Porzingis il shootait à 3 points. Et ben étonnamment, c'est vraiment cette qualité-là dont tout le monde connaissait qui, je trouve, apporte le plus aux Celtics, parce que ça permet, en plus de venir ajouter du scoring sur des shoots à 3 points, ça permet surtout de libérer des espaces monumentaux pour les drives des Jays. Donc ouais, le spacing. Et le dernier point, c'est son passing, où là pour le coup, pour moi, c'est une vraie surprise. J'avais vu quelques vidéos, il me semble que c'était Azad qui m'avait envoyé quelques vidéos de passing de Porzingis à Washington, mais contexte Washington, puis très peu d'échantillons, donc je me disais oui, bon bah faut voir. Et au final, c'est quand même une vraie menace, que ce soit au poste ou parfois sur short roll. Donc voilà, vraiment vraiment des points très intéressants. J'ai vraiment pas grand chose à reprocher à Porzingis sur ce début de saison, au tel point que quand j'ai fait mes notes pour ce podcast et que j'ai réfléchi à des défauts ou des choses un peu à lui reprocher sur ce début de saison, le seul truc qui m'est venu en tête, c'est la fragilité physique. Et encore, enfin, je veux dire, c'est pas une surprise. On savait que quand tu prends Porzingis, tu prends le package complet, dont celui de fragilité physique. Enfin, tu le savais. Donc ouais, pas grand-chose à reprocher à Porzingis.
Hugo, je vais revenir un petit peu justement sur le côté santé. J'aurais une petite question derrière. Au niveau du jeu, en tout cas, toi, Hugo, j'imagine que tu partages l'avis de Titouan.
Ah, totalement. Et bon, je alors j'aime pas faire ça parce que il me semble qu'en plus j'ai pas parlé de Porzingis dans un podcast. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas le souvenir. Mais pour ma part, en tout cas, j'avais pas trop de doutes qu'on a tradé pour Porzingis. Et je l'ai tout de suite tweeté. On en a parlé ensemble. J'avais pas trop de doutes sur le joueur qu'il était. Je trouvais que ça déjà défensivement, je trouvais que il était sous-coté à Washington. Et voilà, évidemment, je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là, parce que là, c'est quasiment un des tout meilleurs rim protecteurs de la ligue, clairement. Il doit être top 5, je pense, si on regarde les stats. Par contre, juste un point sur lequel j'étais pas trop, trop d'accord avec Titouan, c'est quand on dit qu'il est respecté sur les tirs. Alors, c'est vrai qu'il est. Bah, il y a toujours l'étiquette de Porzingis comme étant un shooter. Par contre, si on regarde les stats, notamment sur le pick and pop, enfin. Sur le pick and pop, en tout cas l'eye test, quand je regarde, j'ai pas l'impression qu'il est super respecté. Enfin, il est souvent ouvert. Et en effet, en fait, quand on regarde les stats de Porzingis, il prend 22% de ses tirs à 3 points wide open. 22%, on va dire à peu près 1 sur 4. Il prend quasiment 2,6 tirs à 3 points par match en étant wide open. Et c'est là où ça pose problème. C'est qu'en fait, parfois, il n'est pas respecté, notamment sur pick and pop. Et en fait, là-dessus, il a 32% de réussite. Enfin, 33, avec les arrondis. 33% de réussite. Donc, en fait, c'est le seul petits défauts qu'on pourrait lui dire, comme l'a dit Titouan, c'est cette réussite qui fuit parfois, mais quand il va réussir à trouver ces 3, allez, ces 2, 3, 4% supplémentaires, bah franchement, bon courage à nos adversaires, parce que là, vraiment, ça va être une équipe encore plus létale que celle qu'elle n'est actuellement. Mais sinon, pour le joueur qui est Porzingis, non, enfin, franchement, il apporte énormément. Il apporte cette variété aussi en attaque, comme l'a dit Titouan avec son passing notamment depuis le poste. Hein, ça peut être un vrai passing hub, hein, comme disent les Américains. Et également par son apport justement sur le post-up où il a des stats absolument irréelles. Donc non, franchement, ultra ultra content de l'impact de Porzingis, qui est, je pense, l'un des tout meilleurs intérieurs de la Ligue cette année. Et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un intérieur à ce niveau à Boston.
Si je peux juste rajouter sur la respectabilité de Porzingis, en fait sur le fait qu'il ait des shoots ouverts à 3 points sur pick and pop, très souvent, faudrait le vérifier dans les stats, hein, c'est juste une impression visuelle, mais je trouve aussi que il est souvent wide open sur ses shoots à 3 points après pick and pop, parce qu'il les prend aussi, je trouve, de très très loin. Enfin, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué, c'est quand il prend ses shoots en pick and pop, souvent il est en tête de raquette, enfin il est à l'angle 90, enfin, en face du panier. Et souvent, ouais, je le trouve vraiment très loin du panier. Donc est-ce que il est pas wide open tout simplement parce qu'en fait il est tellement loin que oui, les défenseurs vont pas aller le chercher non plus aussi loin. Donc je sais pas, c'est quelque chose à vérifier dans les stats. C'est sa distance à laquelle il prend ses 3 points, mais je trouve qu'il y en a beaucoup où il est très loin, et c'est peut-être ça qui fait que il est souvent wide open.
Ok. Alors, une question qu'on se posait sur Porzingis, bien évidemment, c'était la question de la santé. Bon, ça a l'air d'aller globalement, mais il n'est que le sixième joueur des Celtics en termes de minutes disputées depuis le début de la saison. Il a joué que 35 minutes de plus que Sam Hauser, par exemple, en minutes totales. Il est seulement huitième au nombre de matchs joués. Et autre chose que j'ai noté, il a moins joué qu'Al Horford. Voilà. Il a joué moins de minutes cette saison qu'Al Horford. Alors, est-ce que ça vient d'une volonté de le garder en santé à tout prix, ou est-ce que y a des petits pépins que sur l'injury report, un coup c'est le mollet, un coup c'est le genou. Alors bon, on ne sait pas trop si c'est juste pour le reposer, mais je vous avoue que je l'ai pas beaucoup suivi les saisons précédentes. Donc, est-ce qu'on est dans ces standards de minutes? Avec son historique de blessure, je suis pas sûr qu'on veuille être dans ces standards de minutes. Mais je sais pas. Pour vous, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, je veux dire, le fait, c'est pas un. Bon, après d'inquiétude, a priori, il va bien, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il loupe quand même 10 matchs, je crois, hein, depuis le début de la saison, si je dis pas de bêtises, c'est pas quelque chose d'inquiétant. Hugo.
Pour ma part, vraiment pas. D'ailleurs, on l'a vu. Je sais plus là, parce qu'il a raté un match où sur l'injury report, c'était noté, je sais plus, blessure au genou, quelque chose. Et au final, on l'a vu s'échauffer. Enfin, il a fait un échauffement, mais comme s'il allait jouer le match de sa vie derrière. Donc non, franchement, pour le coup, il y a vraiment une volonté. Bon, là, on le sait, il y a le load management qui est légion finalement en NBA. Et pour le coup, bah, les Celtics, cette année, on est clairement en mode CGT Celtics. Hein. Il y a quelques années, il y avait les Hospital Celtics. Là, c'est clairement les CGT Celtics. On accorde des jours de repos. Là, par exemple, Jaylen Brown qui rate le match à Toronto pour une petite blessure au genou. C'est clairement un jour de repos. Hein. Tu l'as mérité. Tu as bien travaillé. Franchement, Jaylen, tu as très bien travaillé. Prends ton petit jour de repos, reviens en forme pour le prochain match. Et je pense que vu notre bilan et vu la sécurité qu'on a vis-à-vis, en tout cas, allez, on va dire du troisième seed, parce que je pense que le deuxième est encore loin d'être assuré, le premier, pardon, et le premier est encore loin d'être assuré. Mais je pense qu'on peut se permettre, voilà, de donner des petits jours de congé par-ci par-là. Et Porzingis, Horford, tout ça, ce sera les premiers à en bénéficier, parce que encore une fois, historique de blessure, comme tu l'as dit. Et parce que c'est des joueurs qui sont ultra importants. Et donc voilà, enfin, On ne peut pas se permettre de les perdre, donc on va leur donner pas mal de repos. Ils joueront. Voilà, Porzingis, pour répondre justement à ta question, si on regarde l'année dernière, il n'est pas sur le même rythme de match joué. Parce que l'année dernière, il en joue. Alors il me semble qu'il en joue une soixantaine au final, sachant que sur la fin, Washington, le met au repos parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Mais il était sur un rythme de 65, 67 matchs, un truc comme ça. Donc cette année, il fera évidemment moins, mais c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un souci de blessure. En tout cas, pour moi, ce que je pense, c'est que c'est pas un souci de blessure. C'est plus un souci de conservation, quoi. C'est de prévention. Voilà, le mot, c'est ça pour moi, c'est prévention.
Ouais, c'est sûr qu'on a tout intérêt à être prévenant parce que si, je touche du bois, mais si Kristaps venait à se blesser, ce serait quand même plus la même histoire. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce que l'un d'entre vous veut profiter du micro pour ajouter quelque chose?
À part que c'est la bonne année pour gagner un titre, non, tout va bien.
Ah là, c'est vrai que on a l'air d'être dedans là. Hein. Ok. Bon, eh ben écoutez, alors je pense qu'il va être temps de se quitter. On est sur un peu plus d'une heure d'épisode. Hein. C'est bien. On arrive doucement à se tenir aux durées qu'on se fixe maintenant. C'est bien. On progresse. Du coup, ben on n'a pas encore fixé de prochains rendez-vous pour nous au trèfle. Bon, on n'en a même pas parlé, mais la première chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que on est à un petit peu moins de 3 semaines de la deadline. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura quelque chose à commenter à ce moment-là. Et puis, si ça n'est pas le cas, on se retrouvera de toute façon, j'imagine, à peu près dans ces eaux-là pour faire un nouveau point sur l'avancée de la saison des Celtics. Les gars, merci. Et puis, bah, du coup, on se dit à bientôt.
Ouais, bah merci à toi, puis à la prochaine.
Voilà, bah encore une fois, merci à toi, Johan, et à la prochaine en espérant être encore une fois un peu plus sur le chemin des 60 victoires, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 60 victoires à Boston, et là on est bien parti pour le réaliser, donc on espère atteindre cette
Ouais,
barre.
ouais. C'est vrai que là, vu le pourcentage de victoires et vu qu'en plus de ça, on a eu un planning assez compliqué en début de saison et qui nous reste l'un des plannings les plus simples, entre gros guillemets, de toute la NBA. Si on regarde le pourcentage, on peut y croire fort à ces 60 victoires cette saison. Voilà, ce sera le mot de la fin. Go Celtics et à bientôt. Salut tout le monde.
Oh.
About a 2 second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams checked out the stretch.